I'm turning today to the first letter of John, chapter 4 and verse 1.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans la première épître de Jean au chapitre 4 et au verset 1. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et notre sujet est le suivant, discerner la vérité de l'erreur. Et dans notre série d'études, dans cette première épître de Jean, nous en arrivons à ce moment où il y a 6 versets qui sont dévoués à ce sujet. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, c'est le début de ce passage, et la fin du passage, c'est la dernière partie du verset 6, la conclusion. À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Et dans ces 6 versets, nous voyons tout d'abord une exhortation à examiner, à tester tout nouvel enseignement. Et ensuite, les 4 critères par lesquels ceux qui enseignent et leurs enseignements sont testés, examinés. Ainsi, c'est un passage qui est compact, ici, au début du chapitre 4 de 1 Jean, sur ce sujet-là. Parfois, il y a une tendance avec ce passage à prendre uniquement le verset 2, comme si c'était là le seul critère du passage. Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Et ceci en soi est souvent dilué à ceci en disant si la personne, l'enseignant, croit dans l'incarnation de Christ, que Christ est venu dans la chair, alors c'est le seul critère pour tester et examiner son enseignement et le seul critère pour les croyants. Mais c'est là une manière très superficielle de regarder ce texte, de considérer ce texte, parce que clairement, alors que vous examinez ce texte, il y a non seulement un critère, mais 4 critères dans ces versets. Et même ce premier critère est bien plus profond qu'il n'a l'air ou qu'il n'est compris parfois. Ainsi, nous allons voir ces critères l'un après l'autre. Tout d'abord, le devoir d'examiner. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit. Est-ce que vous avez un jour imaginé de lire cette exhortation dans l'Écriture ? Ne croyez pas. Mais c'est là, dans ce texte. La parole de Dieu nous dit « croyez ». Mais ici, « ne croyez pas », il y a certaines choses dans lesquels nous ne devons pas croire et que nous devons rejeter. C'est là notre responsabilité. Le commandement de Dieu, c'est ne croyez pas à certaines choses. Si vous croyez tout, alors, sans le réaliser, vous devenez un ennemi de la vérité. Parce que la vérité, le chemin du salut, ces choses essentielles sont obscurcies. Et ceci est cruel pour notre âme et pour les âmes, et ainsi en devenant un croyant vague qui croit toutes sortes de choses, vous devenez un ennemi de la vérité. Oui, croyez, mais il y a certaines choses pour lesquelles nous sommes exhortés à ne pas croire. Aucun de nous ne devons être un croyant superficiel. Ne croyez pas à tout esprit. Ceci est intéressant. Pourquoi est-ce que l'apôtre Jean utilise ce terme ? Ne croyez pas à tout esprit. Clairement, il utilise cela comme étant une métaphore ou l'utilisation d'un terme pour représenter quelque chose qui est proche. Par exemple, parfois, quand l'Europe parle du Royaume-Uni, l'Europe dit « Londres dit ceci ». Bien sûr, ils ne veulent pas dire « Londres ». C'est un mot qui représente le gouvernement anglais. Ou si vous dites que vous êtes fidèle à la couronne, c'est aussi une métaphore pour dire que vous êtes fidèle à la reine. Ici, Clairement, Jean veut dire tout enseignant, tout prophète. Il se réfère à ceux qui enseignent. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas prophète, enseignant ? Pourquoi est-ce qu'il utilise ce terme à tout esprit ? Ne croyez pas à tout esprit, de manière évidente. Parce que ces prophètes, ces enseignants, disent qu'ils parlent par l'esprit. Et nous avons ceci de nos jours, les enseignants charismatiques disent quelque chose de complètement nouveau et ils disent « L'Esprit m'a dit, l'Esprit m'a parlé, j'ai entendu une voix. » Ainsi, vous avez un nouvel enseignement et c'est tout nouveau. Ainsi, l'apôtre Jean reconnaît qu'ils disent qu'ils parlent par l'Esprit. Ne croyez pas à tout esprit. Bien sûr, il y avait des vrais prophètes en ces jours-là, mais ceux-ci disparaissaient également parce que l'écriture était presque finie et complète. L'apôtre Jean qui écrit cette épître, 1 Jean, l'apôtre Jean est le dernier apôtre qui a vécu très probablement. Il n'a pas encore été utilisé par Dieu pour écrire le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, mais c'est là l'un des derniers livres de la Bible. Et les prophètes n'ont été donnés à l'Église que jusqu'au jour où l'Écriture était complète. Ensuite, les prophètes n'existaient plus, il n'y en avait plus. À ce moment-là, il y avait encore quelques prophètes sincères au temps de l'apôtre Jean, et lui était apôtre, prophète lui-même. Ainsi, il dit « Ne croyez pas tous les prophètes ». Il ne dit pas « Ne croyez pas ». À tout ce qui est dit, parce que les prophètes n'avaient pas encore fini leur ministère avant que l'écriture ne soit complète, parce que l'écriture ensuite est tout ce qui est important. C'est là ce qui nous est enseigné le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et chapitre 16. Deux fois, il dit aux disciples que l'Esprit Saint va les diriger, eux, dans toute la vérité. Et que ceci sera la vérité, que la vérité sera complète, que la Bible sera entière et complète, durant l'ère des apôtres, ce sera l'autorité complète et finie pour la foi, pour la vie, et il n'y aura pas besoin de prophètes inspirés après cela, parce que ceci, ce serait une pleine confusion. C'est là ce que Christ a enseigné aux disciples, que l'Esprit les dirigera, eux, dans toute la vérité. Et bien sûr, nous avons l'épître de Jude, l'une des dernières de l'Écriture également, il se réfère à la vérité qui a été délivrée une fois pour toutes. La Bible est pratiquement complète à ce moment-là. Et il y a les derniers versets du livre de l'Apocalypse, cet avertissement solennel contre quiconque qui ajoutera à la parole de Dieu ou qui ôtera de la parole de Dieu. Elle est complète et finie. Et là, on arrive bientôt à la fin de l'écriture de la parole de Dieu. Quand cet avertissement vient, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. C'est pour cela que ce terme « esprit » est utilisé quand l'apôtre Jean veut dire clairement « enseignant ». Et mon premier point, c'est le premier critère du verset 2. « Reconnais l'esprit de Dieu à ceci ». C'est le critère qui teste la divinité de Christ, mais c'est profond. « Reconnaissez l'esprit de Dieu à ceci ». Quelqu'un qui sera inspiré de Dieu réellement, quelqu'un qui enseigne la vérité de notre temps, comme elle est écrite dans la Bible. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Ce terme, ce vieux terme, tout esprit qui confesse, c'est un terme qui est riche, plein de significations, qui se réfère à quelqu'un qui non seulement dit de sa bouche ou est d'accord avec l'incarnation de Christ. Est-ce que vous croyez dans l'incarnation de Christ? Oui. Alors vous devez être un croyant. Non, ce n'est pas simplement ceci. Tous ceux qui confessent, et ce terme signifie proclamer ouvertement. C'est quelque chose de bien plus profond que de dire « oui, je crois en cela ». Cette personne le met en pratique, représente Christ, prêche ceci et témoigne de ceci et le met en pratique dans sa vie. Cette personne croit réellement et confesse et déclare et proclame que Jésus-Christ est venu en chair. Ce n'est pas simplement être d'accord avec le principe, mais c'est quelqu'un qui est prêt à représenter, à vivre pour cela, à se tenir fermement. C'est un terme profond et riche, bien plus que simplement être d'accord avec quelque chose. Et ceci porte son implication. Jésus-Christ est venu dans la chair. Ceci est plein de signification. Jésus-Christ, Jésus, le nom personnel du Sauveur, Christ, qui signifie le Messie, celui qui est oint, celui qui est promis, celui qui a été promis dans l'Écriture depuis longtemps, qui est venu pour mettre en pratique toutes les choses que les prophètes ont prophétisées. Et ceci inclut sa souffrance, sa mort à la croix du calvaire pour les pécheurs, et il a expié personnellement les péchés de ceux qui sont rachetés. Christ, le Messie, Jésus, son nom personnel, Christ, celui qui est oint, attendu, le Messie attendu, est venu dans la chair, oui, mais c'est Christ qui est Dieu, est venu dans la chair, alors d'une manière évidente, il est infaillible. Et toute parole qu'il a prononcée est vraie, et on ne peut pas les contredire, et ces choses ne peuvent pas être fausses. Tout ce qu'il a fait est parfait. Est-ce que la personne croit en ceci? Est-ce que celui qui enseigne croit en ceci? Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants dans différentes dénominations chrétiennes, dans les églises de notre pays, qui ne croient pas en ces choses. De manière technique, ils vont être d'accord avec l'incarnation de Christ, mais ils ne croient pas que Christ était infaillible. Et ils ne sont pas là à écouter chaque parole en croyant qu'elles sont toutes vraies, que toutes ces explications, toutes ces promesses sont données de Dieu. Ils ne croient pas en cela. Ils ne croient pas dans l'implication de l'incarnation, Christ venu dans la chair. Et ceci est un critère extraordinaire. L'enseignant qui enseigne une nouvelle chose, oh, combien est-ce qu'il croit que Christ est le Fils de Dieu? Toutes ces choses sont dans ce passage. Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, qui déclare ouvertement que Jésus-Christ est venu en chair, qu'il est réellement Dieu et qu'il est réellement homme, qu'il est venu en chair. D'où est-ce qu'il est venu? Il est venu de l'éternité, il est venu de la gloire céleste, il préexistait avec le Père, tout est là dans ce verset, si vous pensez à ceci et y réfléchissez. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, incarné, préexistant, éternellement avec Dieu, égal à Dieu, est venu dans le temps et dans une personnalité humaine, dans une chair humaine. Est-ce que vous croyez qu'il est réellement Dieu? Est-ce que vous croyez qu'il est devenu homme? Et pourquoi est-ce qu'il est devenu homme? Pour faire quelque chose que seul un homme pouvait faire, pour nous représenter, pour obéir parfaitement à la loi, pour mériter le ciel pour nous, à la place de tous ses enfants, qui jamais n'auraient pu mériter le ciel, pour aller à la croix du calvaire, pour souffrir en tant qu'homme, pour porter l'agonie, les conséquences de la condamnation éternelle à leur place en tant qu'homme, et il l'a ressenti en tant qu'homme, il a souffert en tant qu'homme. Ainsi, il était homme tout autant que Dieu. Il devait être Dieu parce que seul Dieu, homme, pouvait être parfait et pouvait être qualifié pour être notre Rédempteur. Seul Dieu, homme, pouvait porter la condamnation et porter toute la condamnation et boire toute la coupe parfaitement à la place de ses enfants. Tout ceci est dans le passage. Est-ce que l'enseignant croit tout ceci? Tout, entièrement, toute l'implication de ce verset, de Christ qui était Dieu, qui est venu dans la chair. Est-ce qu'il prêche pour le salut des âmes? Est-ce qu'il appelle les gens à venir à Christ? Est-ce qu'il leur montre qu'en lui seul, il y a le salut? Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse, qui proclame ouvertement, qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, le Messie est venu du ciel dans ce monde, dans la chair. Il est de Dieu. C'est là le premier critère doctrinal pour tester la prédication de quelqu'un, la divinité de Christ et tout ce que cela implique. C'est le premier test. Deuxième point, il y a ce deuxième test au verset 4. J'aimerais lire le verset 3 avant de continuer. Le contraire. Et tout esprit qui ne confesse pas, qui ne proclame pas ouvertement que Jésus-Christ, le Messie, celui qui a été promis, est venu réellement dans la chair, réellement homme, n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'Antichrist dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà à présent dans le monde. Ainsi, la divinité de Christ, c'est là le premier test. Le deuxième test est au verset 4. Le deuxième test est le suivant, le test de la rédemption personnelle. Voyez ces paroles. Sont-ils sauvés? L'apôtre Jean, c'est là ce qu'il dit. Est-ce qu'ils sont réellement sauvés, ceux qu'ils vous enseignent? Est-ce qu'ils ont un témoignage de salut? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, le Saint-Esprit, est plus grand. Et vous êtes de Dieu. En tant que chrétien, vous avez été né de nouveau, vous avez été recréé. Et l'Esprit est en vous, vous avez une nouvelle compréhension, une nouvelle nature. Et par la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas leur cas, c'est là le sens de ce verset. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus. Vous êtes sortis de la philosophie de ce monde. Et tous ces désirs mondains, et les buts mondains, les objectifs mondains, vous avez été délivrés de l'athéisme, de la mondanité. Vous avez été délivrés de ces choses, du matérialisme. Vous êtes une création de Dieu, mais ce n'est pas leur cas. Ils sont du monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ceci est un critère. Est-ce qu'ils font partie de vous, cet enseignant que vous écoutez? Vous allez peut-être sur Internet et vous entendez toutes sortes de prédicateurs. Certains sont bons, certains sont mauvais, certains sont terribles. Qui est-ce que vous écoutez? Est-ce qu'ils font partie de notre famille de croyants? Réellement, est-ce qu'ils ont un témoignage pour Christ? Est-ce qu'ils sont sauvés? Ce sont là des changements profonds qui doivent se passer dans le cœur du chrétien authentique, parce que le chrétien authentique est illuminé par l'Esprit de Dieu. Vous avez compris l'Évangile, vous avez compris cela. Est-ce que c'est leur cas? Certains ne sont pas convertis. Je lis le témoignage de certains de ces prédicateurs sur Internet et c'est grand du monde charismatique qui divertissent tant de gens, il n'y a pas de témoignage de salut. Ceci n'est pas dans leur témoignage, ils ne sont pas humiliés devant le Seigneur, ils ne se repentent pas, ils ne sont pas transformés. Il y a toutes sortes de choses curieuses qui se passent dans leur vie, mais il n'y a pas de témoignage. Est-ce que ce prédicateur est sauvé? Est-ce qu'il a un témoignage? Et beaucoup d'entre eux, je vais vous montrer les preuves, sont des mondains complètement, en particulier ceux qui enseignent l'évangile de la prospérité ne sont pas sauvés du tout. Il n'y a pas de preuve de la grâce dans leur vie. Et c'est là ce que dit le verset 4. Est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce que l'Esprit qui est vainqueur du monde est en eux? Chers amis, vous êtes nés de nouveau, vous êtes fidèles au Seigneur et vous vivez pour lui. Vous avez cette ténacité pour lui, vous avez cette faim et soif de justice et le péché qui était votre meilleur ami avant le salut est devenu en tant que personne sauvée votre pire ennemi et vous êtes si attristé quand vous péchez, vous êtes si déprimé et vous avez besoin de la purification du Seigneur pour vous remettre sur votre pied à nouveau fermement sur ce rocher et la vie est un combat contre la tentation, contre le péché et vous l'aimez, vous dépendez de lui, vous priez le Seigneur et vos goûts sont entièrement transformés, vous ne faites plus les choses que vous faisiez auparavant, vous n'aimez plus ces choses que vous aimiez, Mais eux, ils aiment ces choses. Ce sont des gens qui n'ont pas été transformés. Ce critère du salut personnel, je ne vais pas parler plus longtemps de cela, mais ceci nous le voyons dans ce verset. Et ensuite, je pense que c'est un critère séparé au verset 5. Eux, ils sont du monde. C'est un critère à part parce que c'est important de souligner les détails au verset 5. Eux, ils sont du monde. Quelqu'un me montre une vidéo d'une conférence chrétienne. Certains orateurs sont des gens qui sont réputés pour être bons, peut-être qu'ils sont sauvés. Mais il y a parfois une situation de compromis parce que quand vous voyez ces vidéos, vous avez l'impression d'assister à un concert rock avec du heavy metal, de la musique, des rythmes, et il y a des milliers de jeunes qui sont là avec leurs mains en l'air, et le tout est une imitation parfaite d'un concert pop du monde. Et je pense à ce verset « Eux, ils sont du monde ». Qui est-ce que nous écoutons? Qui est-ce que nous regardons à la télévision, sur Internet? Qui enseigne? Mais peut-être qu'ils disent des choses qui sont bonnes, qui sont justes. Oh oui, j'en suis sûre. C'est toujours la méthode du diable qu'il utilise. Vous attirez les gens avec un certain pourcentage de vérité. Ce sont des faux enseignants cependant, et ce sont là les pires, les plus dangereux. Peut-être qu'il y a certaines vérités, mais qu'est-ce qui est dit d'autre? Qu'est-ce qui n'est pas dit également? Et tout ceci, c'est plein de mondanité, du spectacle. Ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent suivant le monde. J'ai entendu récemment parler d'un homme aux États-Unis qui était un enseignant dans une grande église, une méga church, avec beaucoup de gens qui écoutaient, et il était bien connu comme auteur. Apparemment, il a commis un grand péché, il a chuté, mais après cela, il a nié la foi, et à présent il dit qu'il n'est pas chrétien du tout. Et j'ai vaguement entendu son nom, mais je me suis rappelé plus tard que j'ai lu un livre qui parlait du mariage et de la famille écrit par cet homme. Et ce livre en lui-même, dans l'ensemble, était plutôt juste. Mais j'ai lu une certaine partie et ceci m'a plutôt troublée. Ce que je n'aimais pas, ce n'était pas que des mauvaises choses étaient dites, mais que rien ne venait de la parole de Dieu. Toute cette approche, le raisonnement, était entièrement terrestre. Peut-être qu'il disait les bonnes choses, il donnait de bons conseils, mais quelle est la base de ce conseil? Oh, ceci réussit et ceci ne réussit pas. Toutes sortes de choses de ce genre, il n'y avait pas d'écriture, de texte qui était mentionné ou rien qui n'était dérivé de la parole de Dieu. Cet homme ne faisait pas partie de la famille de Dieu, il ne pense pas à ces choses à partir de la Bible, ce n'est pas son autorité. Peut-être qu'il dit les bonnes choses, je ne peux pas tout à fait comprendre comment, mais nous sommes un peuple qui aime la parole de Dieu. Et quand il y a des choses qui sont données, elles doivent être justifiées par la parole de Dieu. Ainsi, je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer, mais en regardant en arrière, je ne suis pas surpris qu'il nie la foi entièrement. Oh, je n'ai lu qu'une partie de ce livre, mais ceci me montre qu'il ne faisait pas partie de nous, de la famille de Dieu. Ainsi, ils sont du monde, ils parlent suivant le monde et ils raisonnent d'une manière mondaine. Comme ce mouvement avec l'idée que vous commencez une église et vous vous dites « Oh, qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce que les gens du monde veulent ?» Ils n'aiment pas les cantiques, ils n'aiment pas l'adoration sérieuse et sincère du Seigneur et la prédication uniquement. Ainsi, nous devons donner au monde ce qu'ils veulent. Et vous devenez un expert et vous faites de l'église une église que le monde veut. Mais écoutez, ceux-là, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent en suivant le monde, et le monde les écoute. Selon l'apôtre Jean, c'est là un critère. Et c'est échouer que d'essayer d'avoir la faveur du monde en leur donnant ce qu'ils veulent, parce que notre tâche, c'est de prêcher l'Évangile uniquement et d'appeler les gens hors du monde et à Christ. Ainsi, quels sont les goûts et ce à quoi les enseignants sont enclins, le rock, le pop et le spectaculaire et toutes sortes de langages qui attirent, qui font rire. Ou est-ce que tout est dérivé de la parole de Dieu? Il y a une maison d'édition aux États-Unis. Je me souviens qu'il y a 10 ans à peu près, il y avait ces premiers signes de déclin. Parce que c'était une bonne maison d'édition. Mais elle est entrée dans l'apostasie. Mais vous ouvriez le catalogue et soudainement, il y a un nouveau genre. Des romans et puis un auteur qui a un prix. Et toutes sortes de romans, qu'est-ce que les chrétiens font à publier des romans, des choses romantiques? Ces choses sont du monde, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent suivant le monde et le monde les écoute parce que c'est là ce que le monde veut, ce que le monde attend, c'est là tout ce que les chrétiens superficiels veulent lire, les chrétiens qui sont tièdes. Et cependant les gens devraient savoir un peu mieux. Quelqu'un a écrit une thèse pour un doctorat sur le sujet de Spurgeon et sa femme, leur amour, leur mariage. Oh, j'ai lu beaucoup de choses par rapport à Spurgeon, son œuvre, son autobiographie, bien évidemment, toutes sortes de prédications, de notes, etc. Mais il n'y a pas d'informations pour écrire un tel livre. Comment est-ce que vous pouvez faire cela? La thèse a été publiée. Et ceci a été développé et ce livre est un best-seller et c'est un livre célèbre, mais c'est de la fiction qui dit toutes sortes de choses douteuses pour créer un contexte romantique dans la vie de Spurgeon. Imaginez l'époque victorienne qui parlerait de leur mariage. Non, c'est impossible. Ce n'est pas un livre sérieux, c'est un roman. Ceci me rappelle ce verset. Ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent suivant le monde, ils veulent plaire au monde, et le monde, ça lui plaît. Parce que ceci ne parle pas de l'Écriture, n'enseigne pas la vérité. N'écoutez pas ces choses. Ceci n'est pas digne de votre attention. Ainsi, est-ce qu'ils font partie du monde? Est-ce qu'ils sont du monde? Oh, je pourrais dire plus de choses par rapport à cela, mais le temps passe et j'aimerais continuer avec ce verset 6. Et c'est là le quatrième critère. Nous, nous sommes de Dieu. C'est là l'apôtre Jean qui parle de lui-même. Il parle du groupe des apôtres. Mais je pense qu'à ce moment-là, il est le dernier qui reste. Au moment où il écrit sa lettre, oh, ce n'est pas entièrement sûr, mais très probablement, il est le seul qui est encore en vie à ce moment-là. Et il parle de lui-même, des apôtres. Nous, nous sommes de Dieu. Ce n'est pas une chose arrogante de sa part que de dire cela, parce qu'il était avec le Seigneur, il a été envoyé par le Seigneur, appelé par le Seigneur, un apôtre réellement. Si quelqu'un de nos jours se dit être apôtre, ne le prenez pas au sérieux. Les apôtres ont tous été appelés personnellement par le Seigneur. Et ils ont été qualifiés, ils étaient avec le Seigneur. L'apôtre Paul est la seule exception. Il n'a pas été avec le Seigneur parce qu'il a été ajouté plus tard, mais le Seigneur lui a donné une révélation particulière. Il n'y avait pas d'apôtre après eux. Il n'y a pas d'instruction dans l'Écriture pour un apôtre parce que c'est une fonction qui a cessé au moment où l'Écriture a été complète. Il n'y avait plus d'apôtres, mais ici il parle de lui-même. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Souvenez-vous que le Seigneur a dit « Mes brebis entendent ma voix ». S'il y a une œuvre de régénération de l'Esprit-Saint dans votre cœur pour vous illuminer, vous savez que c'est l'Écriture authentique, vous le savez. Par une révélation divine, par cette onction divine, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est point de Dieu ne nous écoute point. Ainsi, le quatrième test est celui-ci. Est-ce que l'enseignant est entièrement lié à l'autorité absolue de l'Écriture. Est-ce que c'est là son autorité et sa seule autorité pour la vérité? Nous sommes de Dieu, les apôtres, qui scellent le Nouveau Testament et qui ont accepté l'Ancien Testament. N'écoutez pas ceux qui disent que le canon de l'Écriture, les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament ont été scellés après l'ère apostolique par un conseil de l'Église. Non, ceci n'est pas juste. Le conseil de l'Église a fait de son mieux pour confirmer ce qui a déjà été scellé par les apôtres. Le canon de l'Écriture a été scellé par les apôtres eux-mêmes durant la vie des apôtres. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Ainsi, j'ai mentionné ceci il y a quelques semaines. Nous avons des voisins ici, une église voisine, un pasteur, un enseignant qui a accepté le programme, l'enseignement gay entièrement. Est-ce qu'il dérive tout de l'Écriture? Non. Ceci est une contradiction à Romains. C'est contre l'Écriture. Ainsi, nous ne pouvons pas l'accepter, le recevoir. Nous devons le rejeter. Il n'est pas un réel enseignant de Dieu. Il rejette également, ce même pasteur, l'expiation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour se substituer à ses enfants. Et il a écrit des livres contre cela. Ainsi, nous le rejetons comme enseignant. Nous devons faire attention. Ne croyez pas à tout esprit. Mais je ne veux pas que cela ait l'air négatif. Il y a 4 critères ici et j'aimerais revenir avant de conclure au verset 1. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ils étaient dans l'Église, ils sont sortis de l'Église et allés dans le monde. À partir du jour de la Pentecôte, des choses merveilleuses se sont passées. Vous avez entendu parler des 3000 qui ont été sauvés, puis les milliers qui ont été sauvés après cela, et l'Évangile a été répandu, et ensuite, bien sûr, la grande mission parmi les non-juifs, et la parole de Dieu se répand parmi les non-juifs, et l'œuvre de l'apôtre Paul, et vous avez entendu parler de toutes ces choses. Il y avait un réveil puissant, et dans certains endroits, des centaines de milliers de personnes sont venus au Seigneur, mais il y a certains qui ne sont pas réellement sauvés, ils pensent qu'ils le sont. Et vous lisez cela dans la lettre aux Hébreux, ils se sont détournés, ils retournent au monde. Nous voyons cela dans la parabole du semeur. Le Seigneur Jésus-Christ parle de la semence qui a été semée dans 3 catégories de personnes qui écoutent, qui tombent, qui chutent. Mais une seule catégorie est réellement sauvée. L'Évangile est prêché, beaucoup sont convertis, mais certains sont simplement impressionnés de manière naturelle. Leur conscience n'est pas touchée, ils comprennent d'une certaine manière le chemin du salut, ils professent Christ, ils viennent à lui, mais ils ne sont pas réellement sauvés. Peut-être que leur repentance n'a jamais été sincère, peut-être que leur repentance était simplement par rapport à une ou deux choses et n'ont jamais réellement compris la corruption du cœur et leur péché. Peut-être qu'ils ne croyaient pas entièrement en Christ et ne se sont pas donnés entièrement à lui. Peu importe la raison, mais il n'y a pas eu une œuvre de régénération réelle dans leur vie. Et certains de ces gens deviennent des enseignants, des faux prophètes. Et de même, dans l'histoire des grands réveils, aux États-Unis et dans ce pays également, de grands nombres de personnes ont été sauvées durant les réveils d'une manière merveilleuse. Et la plupart d'entre eux se sont tenus fermes pour le Seigneur et les églises ont grandi merveilleusement. Il y avait beaucoup de nouvelles églises qui ont été construites et toute la société a été impressionnée par cela et a été touchée. Mais il y avait certains qui n'ont jamais été réellement convertis, qui sont entrés dans l'Église par la puissance de ce mouvement qui se passait, ils sont entrés, ils n'ont pas été réellement convertis, certains sont restés dans l'Église et ils sont devenus des enseignants, apostats et libéraux, de même dans ce pays. Et à partir de 1739, le grand réveil avec Whitfield, Wesley et d'autres, ce temps de l'église baptiste, beaucoup de gens ont été sauvés, mais certains n'étaient pas réellement sauvés. Et parmi ces gens, certains sont devenus de faux enseignants. Et en 1904 et 5, le réveil au Pays de Galles, beaucoup se sont tenus fermement. Et ceci a même impressionné le Pays de Galles pendant des générations. Mais il y avait également certains qui ont chuté, qui sont devenus de faux enseignants. C'est là ce que dit l'apôtre Jean ici. Il y a beaucoup de faux prophètes qui sont venus dans le monde. Et nous avons vu les quatre critères. La divinité de Christ qui n'est pas simplement acceptée mais proclamée pour sauver les âmes. Le critère de la rédemption. Est-ce que celui qui enseigne est réellement sauvé? Le test de la mondanité. Est-ce qu'il fait partie du monde? Est-ce qu'il est mondain ou est-ce qu'il fait partie des croyants? Est-ce qu'il obéit à la parole de Dieu, à l'autorité apostolique et à la parole de Dieu uniquement? Les quatre critères et cette exhortation à tester, à examiner les esprits que l'apôtre Jean nous donne dans ces six versets. Que ceci soit une bénédiction pour vous, c'est un encouragement que de savoir que notre foi est certaine, qu'il y a des critères pour ceux qui enseignent que ces choses sont stables. L'apôtre Jean nous montre comment discerner la vérité de l'erreur.